RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line! Come on!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des villes!
Il y a grand Jean.
Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Vous pouvez évidemment retrouver tous les anciens numéros sur le site de RMC, sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, iTunes. Abonnez-vous, suivez-nous pour connaître toute l'actualité tennis. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1 est à l'autre bout du monde. Pour lui, c'est l'été. Il a dû ressortir les beaux Bermudas pour nous faire vibrer pendant 15 jours. Eric Salio. Salut Eric.
Salut Ilia, salut à tous. Oui, tu as vu juste.
Salut. T'es bien là-bas à Melbourne.
Question de vestimentaire, tu as vu juste. Ouais. Le Bermuda et de sortie, ouais. C'est obligatoire, c'est l'été.
Il pleut, il fait froid à Paris, hein. Mais bon.
Je suis désolé pour vous.
Ouais, ouais, chanceux. Le deuxième à entrer sur le cours numéro 1 a joué 11 fois l'Open d'Australie, messieurs dames. Il y a affronté Rafael Nadal, Andy Murray, David Ferrer ou encore John Isner. Aujourd'hui, il partage ses expériences avec nous. Florent Serra, salut Flo.
Salut Ilia, bonjour à tous.
Ça va?
Très bien.
Très bien, c'est ouais, un bon tournoi, c'est un beau tournoi l'Open d'Australie.
Ouais, mais quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit un jour, il faudra que j'aille en Australie et j'ai eu la chance de remporter un tournoi là-bas à Adélaïde. Et comme le dit Eric, les conditions, l'ambiance particulière de ce tournoi, j'aimais beaucoup. Il fallait être vigilant parce que on peut très vite se disperser, ouais. mais c'était top.
On va vous présenter un peu ce tournoi qui est quand même particulier au niveau de l'ambiance. Nous allons partir à 10 000 km d'ici, dans la chaleur torride de Melbourne. Les cris des Australiens dans les tribunes, parfois, que dis-je, souvent alcoolisés. Ce premier grand chelem de l'année qui lance la saison de tennis. L'an dernier, il avait été fantastique, irréel. Même lorsque l'affaire Djokovic avait ébranlé le tournoi, était devenue une affaire nationale, internationale. Le succès stratosphérique de Rafael Nadal, les derniers moment d'Ashley Barty, irréel, je vous disais, cette année, on va vibrer encore et on en demande.
Tennis superstar Novak Djokovic once again faces deportation after the Australian government revoked his visa for the second time.
C'est pas une bonne nouvelle, c'est un truc qui choque. On parle là d'une humeur mondiale.
The Australian Open champion.
I think men's tennis is very, very exciting at the moment, especially at the start of this year in 2023.
Avant de parler des favoris et des Français, j'aimerais, messieurs, qu'on explique un peu à nos auditeurs ce qu'est l'Open d'Australie. Florent en parlait un petit peu en introduction. Eric, tu es là-bas en ce moment. Le lieu, l'ambiance, le site. Eric, décris-nous un peu ce qu'est Melbourne, ce qu'est l'Open d'Australie.
Oui, c'est vrai que c'est un grand chelem qui est particulier. On le surnomme un peu le Happy Slam parce que voilà, on est en plein été austral. Et puis c'est un stade qui est à vraiment portée de ville, si je puis dire, parce que Melbourne est un tout petit New York, mais vous marchez 15 minutes le long de la Yarra River et vous arrivez directement donc à Melbourne Park. Et là. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais pas venu, puisqu'il y avait le Covid. Je trouve que les Australiens ont encore presque métamorphosé leur site, puisqu'il y a un nouveau cours qui existe, qui s'appelle la Kia Arena, qui est une petite enceinte magnifique.
C'est une nouvelle construction, du coup.
Absolument. Tout nouveau ça permet d'avoir des ambiances encore plus sympas parce que c'est vraiment une petite enceinte de 4-5 000 places. C'est le cours sur lequel a joué Luca Van Hache tout à l'heure et il y a encore plus d'espace et puis effectivement il y a la bière qui coule à flot parce qu'il y a beaucoup de zones réservées donc pour se détendre. Et puis aussi moi j'ai noté que pour les gosses c'est une sorte de paradis puisque quand vous longez la Yarra, vous arrivez par l'entrée générale, vous avez des attractions pour les mômes, donc voilà, c'est la fête pour les parents qui peuvent laisser leurs mômes. Exactement. Et ça n'existe nulle part ailleurs.
Florent, tu disais qu'on pouvait vite être dispersé en introduction de ce cours numéro 1. Pourquoi ? C'est l'ambiance, c'est la chaleur, c'est le public qui est très présent, qui est passionné. Les Australiens sont des passionnés de sport.
Oui, il y a des passionnés de sport. Il y a beaucoup de supporters aussi qui sont là, comme Eric le disait, 40 degrés, hein, il peut faire. Il peut être vite alcoolisé aussi. Mmh. Et sur certains matchs, tu peux vite te prendre la tête et avoir des ambiances un peu hostiles. J'ai un souvenir d'un match contre le Croate, Karanudic, qui avait été un petit peu compliqué, mais au-delà de ça, si voilà, il faut rester dans sa bulle. Et puis c'est un stade qui est tellement magnifique, il y a toutes les infrastructures sur place où tu peux tout faire, donc c'est bien. Non, je parlais plus de cette ambiance, de la chaleur aussi, un match dantesque face à Steve Dartis, 2-7-0, 4-1, failli abandonner, les crampes généralisées pour Steve, je m'en sors miraculeusement, Eric doit s'en souvenir, je l'avais eu juste en interview après. On voit souvent ça qu'à Melbourne, avec cette chaleur, et surtout, c'est quand c'est humide que c'est un peu plus compliqué, donc il faut pas perdre d'énergie dans cette effervescence, parce que le soir, il y a plein de choses à faire à Melbourne. Donc, il faut bien rester. C'est pour ça que je dis bien rester dans sa bulle dans ce tournoi, hôtel, club, quand on est dedans, et pas s'éparpiller.
J'ai eu de la chance d'y aller aussi il y a 2 ans, voilà, pour le plaisir. Ce qui m'avait aussi marqué, c'est la taille du site. C'est peut-être 2-3 fois la taille de Roland-Garros. Et Eric, les cours annexes sont gigantesques aussi. Les infrastructures, les lumières, il y a de la place pour les spectateurs. C'est un site fait pour le tennis. Et voilà, toi, tu vas nous faire vivre pendant 15 jours ce tournoi. On le rappelle, hein, si vous nous écoutez un peu plus tard dans la semaine, on est au début du tournoi. Et Eric, on attendait énormément de ce tournoi parce qu'on attend beaucoup Novak Djokovic. Vous souvenez, Eric, Florent et vous qui nous écoutez l'an passé, Djokovic non vacciné arrivant en Australie, les visas acceptés, puis refusés, puis annulés. Il a même été en centre de rétention, puis définitivement expulsé du pays. Affaire incroyable qui a fait la une de beaucoup de médias dans le monde entier. Il est revenu sur cet épisode, Novak Djokovic, à son retour cette année à Melbourne. Écoutez le Serbe.
On ne peut pas dire que beaucoup de choses positives aient été écrites sur moi. Les traces sont là, elles m'ont poursuivi pendant des mois durant. Je n'avais fait que suivre les règles. Mon exemption avait été validée par un panel indépendant d'experts sur un dossier anonyme et je suis arrivé avec les bons papiers.
Eric, on en parle encore de cette affaire aujourd'hui à Melbourne pour cette édition 2023 ?
Oui, bien sûr, parce que ça avait été une affaire politique aussi, parce que c'est vraiment le Premier ministre qui était intervenu pour bloquer le visa de Novak Djokovic, et c'est vrai que les excuses, c'est pas le terme, mais il avait estimé que Novak Djokovic était un danger pour la population parce qu'il incarnait les anti-vax. Donc voilà pourquoi ça avait fait un bruit énorme. Et je crois, que ça avait duré 11 jours, en gros.
C'était
interminable. C'était appel. Novak Djokovic a fait appel à des avocats les plus prestigieux de Melbourne, qui avaient réussi, donc, dans un premier temps à le faire sortir de l'aéroport. Mais à quel prix? Puisque lui, qui était habitué aux hôtels 6 étoiles, il devait dormir dans l'équivalent d'un Formule 1. Quoi.
Comment il a été accueilli, Eric? Ouais. Parce que les Australiens étaient un peu hostiles l'année dernière à Novak Djokovic. Ils se disaient, il se permet tout alors que nous, on est confinés depuis 2 ans. Comment il a été accueilli, Eric?
Dans un premier temps, il a joué le tournoi d'Adélaïde, donc il a pris la température là-bas, et il faut reconnaître qu'il a été très bien accueilli. Ensuite, il est arrivé à Melbourne, et ce qu'on vient d'entendre, c'était ses premiers mots alors qu'il venait à peine de poser le pied à Melbourne. C'était au micro de la chaîne 9 News qui allait droit, et à ce moment-là, il savait pas encore comment il allait être reçu. Et le déclic a eu lieu vendredi soir, puisque il avait été convié par Nick Kyrgios, qui est vraiment son allié, parce que souvenez-vous, ça avait été l'un des rares soutiens l'an passé, hein, Nick Kyrgios, qui avait manifesté son soutien à Novak Djokovic, parce que il comprenait pas qu'on puisse faire vivre cet enfer, entre guillemets bien sûr, mais cet enfer à Novak Djokovic. Donc Kyrgios a dit, viens, on va faire un match exhibition au profit d'une œuvre de charité, et là, l'accueil a été formidable. Et on a senti que Novak Djokovic était soulagé parce qu'il avait peut-être une petite boule à l'estomac avant de retrouver ce public de Melbourne. Et je pense que demain matin, enfin mardi, donc en night session, donc mardi matin pour vous, il y aura pas de souci. Mais attention, Greg Taylor a tenu des propos
c'est le directeur
très
du tournoi,
forts. Ouais. Le directeur du tournoi, il a dit, le premier qui va siffler Djokovic, il sera carrément expulsé du stade. Donc, ils ont intérêt à se tenir à carreau.
Bon, il se fait siffler régulièrement, Novak Djokovic. Ça arrive souvent.
Oui, si quelqu'un dépasse les bornes, oui, et que ça devient très hostile,
Craig Taylor a peut-être des choses à se reprocher, à se faire pardonner par rapport à l'année dernière.
Exactement.
Il n'avait pas été totalement innocent. Flo, on va revenir au sportif, mais c'est lié un petit peu. On le connaît, Novak Djokovic. On sait à quel point c'est un champion, que mentalement, il est fort. Il va avoir un esprit revanchard incroyable. C'est chez lui, Melbourne. C'est son tournoi. Il l'a remporté 9 fois, si je ne me trompe pas. Il va avoir un esprit revanchard incroyable.
C'est l'endroit qu'il préfère. C'est le dur qu'il préfère. Et le connaissant, il dit le strict minimum. Mais oui, au fond de lui, il a envie quand même de vraiment passer devant tout le monde aussi. Et c'est super important pour lui dans ces conditions qu'il aime bien. Après, il doit y avoir, je le dis inconsciemment aussi, un petit peu de stress, toute cette attente. Il a réussi à bien tâter la température, comme disait Eric. Mais peut-être que vous voyez, c'est cette petite douleur à l'ischio qu'il a eue cette semaine, ces petites douleurs musculaires, on l'a vu s'entraîner un petit peu à l'écart. Là, hier, c'était sur au fin fond un peu du stade, un petit peu discret. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à un petit peu de tension? Comment ça va se passer? On sait qu'il peut se tendre, surtout sur les débuts de tournoi. Une fois qu'il est lancé, c'est encore une fois ce danger de première semaine, je le répète, en grand chelem, qui est souvent important. La montée en température de Djokovic, on sait qu'il va s'économiser. Il a un premier tour abordable pour lui avec Carballes Baena. Comment il va monter en puissance pour pouvoir se livrer pleinement la semaine prochaine? Donc, c'est peut-être pas innocent aussi, ces petites tensions musculaires. Vous savez, et puis son ischio, il y a peut-être posé quelques problèmes.
Justement, Eric, où il en est, Novak Djokovic, qu'est-ce qu'on sait sur cette douleur aux ischio-jambiers qui le gêne apparemment? Et tu disais, on le disait hors podcast là tout à l'heure, il joue un peu au chat et à la souris là avec les journalistes, on ne sait pas trop où il en est. Est-ce que tu as des infos, toi?
Alors, les dernières infos qui sont en ma possession, là, on est lundi 23h heure de Melbourne. Il devait s'entraîner à 19h sur un court annexe, donc qui sont réservés au milieu du site. Ça a été annulé. Alors là, on s'est dit oulala, il y a peut-être un vrai souci. Et en fait, je pense qu'il voulait être tranquille. Et donc Florent a abordé le truc. Ils ont une sorte de CNE ultra moderne à 200 mètres de
Centre national d'entraînement.
Voilà, le centre, et avec des cours extérieurs, et c'est là qu'il a tapé quelques balles, et il a été pris, entre guillemets, chassé par les journalistes serbes, et on a pu constater, donc, il a pu s'entraîner normalement, mais il a toujours ce strap, au niveau de la cuisse gauche, et je suis un peu d'accord avec Flo, je pense que ce sont des petites tensions qui sont pas innocentes, c'est une gêne qui remonte à sa demi-finale contre Medvedev à Adélaïde, et la douleur est toujours là, à tel point que hier on l'a pas vu au stade, et donc il s'est contenté du strict minimum, donice à 24 heures de son entrée en lice mardi en night session, donc mardi matin pour vous contre Carballes Baena.
On va suivre ça de très près, mais on rappelle que Novak Djokovic avait gagné l'Open d'Australie avec une déchirure aux abdominaux. Hein. Il est quand même.
Oui.
Il a une telle
marge. Il nous avait promis un documentaire pour tout expliquer,
ouais,
pour que vraiment
vu.
Un peu à la Netflix. On attend toujours.
On l'attend toujours. Il doit être en montage. C'est peut-être la post-prod là. C'est pour terminer le documentaire. Novak Djokovic, on le sait, ultra favori hein, malgré ses petites douleurs de cette Open d'Australie. Tant il a souvent dominé ce tournoi, tant il est chez lui. Et tant il est fort sur cette surface, on va se demander maintenant qui pour le battre. C'est un vrai thème. Le premier qui nous vient à l'esprit, même s'il n'est pas favori, même s'il a inquiété en début de saison, c'est Rafael Nadal. On ne fera pas la même erreur, messieurs, qu'il y a un an où on enterrait un petit peu Rafael Nadal dans cette Open d'Australie. Il a réussi son entrée en lice, Flo, contre Jack Draper, un Britannique, 40e mondial. Il s'est imposé en 4-7. C'était un match piège. Il est très fort, ce Jack Draper, un gaucher avec une pêche incroyable, une frappe de balle qui est monstrueuse. Comment tu l'as trouvé, Rafael Nadal? Il n'avait pas gagné un match encore cette saison.
Mais c'était en ça que c'était un match piège aussi, parce que Draper, parfois, peut ne pas vous laisser le temps de jouer. Il est gaucher, c'est un bon serveur. Il frappe quand même très très bien la balle et il a les armes pour aller mettre la pression sur Rafael Nadal. Mais j'ai trouvé les déplacements de Nadal plutôt intéressants. Ce premier set assez accroché qui était important, où Nadal paye un petit peu, on va dire, ses efforts et cette victoire dans la première manche, il perd le second 6-2. Mais là où il fait la différence, encore une fois, je pense que c'est physiquement. J'y ai joué, moi, sur le Rod Laver aussi. Là, il fait chaud, c'est un peu moite. Vous voyez que Jack Draper, progressivement, en perdant ce troisième, il commençait un petit peu à baisser de pied physiquement. C'est pas facile, il y a de la tension. Vous jouez Rafa sur le central, enfin sur le grand court, c'est il est tendu. Et Draper a souvent ces mimiques où on le sent un petit peu à bout, un peu épuisé et tout. Et là, c'était pas qu'une sensation qu'on avait. Et dans le quatrième, il lâche physiquement par la tension, un petit peu par le physique. Et je pense que c'est l'expérience de Nadal, de ses grands rendez-vous qui ont fait la différence sur ce match, parce que son niveau de jeu est encore un peu perfectible. Il y a encore pas mal de petites fautes directes, mais j'ai trouvé un niveau de jeu moyen très bon, sans trop rater, avec un coup droit qui rebondissait quand même pas mal et des déplacements du fond du court qui m'ont semblé intéressants. Donc c'est une bonne montée en puissance aussi.
Voilà, on est lundi, hein, pour ceux qui nous écoutent plus tard dans la semaine, si jamais Rafael Nadal perd au deuxième tour et que vous écoutez ce podcast. Il a livré ses impressions, Rafael Nadal, après cette rencontre. Elle fait du bien, cette victoire. Il en avait besoin, l'Espagnol, le tenant du titre.
J'ai besoin d'une victoire, donc c'est l'essentiel. Peu importe le chemin, la chose la plus importante aujourd'hui est une victoire contre un adversaire coriace. Gagner contre Jack, comme je l'ai dit avant le début du tournoi, a été l'un des premiers tours les plus difficiles possibles en étant tête de série. Nous savons que nous ne serons pas parfaits, comme je l'ai dit l'autre jour, et ce n'était pas parfait. Mais pour gagner contre Jack, je dois bien faire les choses, non? Et je pense que j'ai bien fait les choses. Tellement satisfait de la victoire parce que cela me donne de la chance pour jouer à nouveau après-demain. Cela a été une bataille difficile, mais j'ai bien accepté les erreurs. J'ai été assez humble pour accepter que ce soit un peu des hauts et un peu des bas tout au long du match.
Eric, il a un peu d'expérience, non, Rafael Nadal, quand on l'écoute et quand on voit sa gestion. C'est fou, voilà, le grand chelem arrive et il augmente et puis il est là, il faut compter sur lui.
C'est une victoire physique et c'est ça qui est intéressant parce que
contre un gamin.
Draper a fini, il crampait de partout oui. et il a reconnu auprès des journalistes anglais qu'il ne voulait pas abandonner parce que Rafa c'était son idole et il pouvait plus bouger, mais il ne voulait pas abandonner contre Rafa sur un grand court. Donc voilà, c'est un lundi soir, c'est pas du grand Nadal, on est tous d'accord, je crois qu'il a commis 43 fautes directes, c'est quand même beaucoup pour lui, mais bon, il s'est donné une chance de rejouer dans deux jours contre McDonald, qui a livré un marathon incroyable aujourd'hui, donc voilà, il est toujours en vie, et tant qu'il n'est pas mort, Nadal peut se succéder à lui-même, c'est une évidence.
Oui, on a fait souvent l'erreur hein, avec Rafael oui. Nadal de pas le voir très fort et finalement le voir avec le trophée 15 jours plus tard. Eric, je reviens vers toi parce qu'il y a eu un vrai coup de tonnerre cette nuit. Cette nuit pour nous, mais pour toi, aujourd'hui, avec le forfait de Nick Kyrgios, douleur au genou, c'est un crève-cœur pour lui. Je vais reprendre ses mots, je suis dévasté. C'est dur là pour Nick Kyrgios.
C'est dur et c'est vrai que nous on était en salle de presse puis on a entendu une annonce au micro Nick Kyrgios en conférence de presse now. Alors là, on s'est tous regardés et on a compris. Mais c'est vrai qu'il y avait des indices déjà. Il avait pas pu jouer la United Cup. Il a pas joué Adelaide et il avait voulu se faire tester. Il a voulu faire un test contre Novak Djokovic vendredi lors de ce match de charité. Mais il faut savoir qu'il s'était fait extraire un liquide, une sorte de pu, et d'ailleurs il l'a mis sur Instagram.
Bon appétit à tout le monde.
Donc le ménisque est touché, il va devoir procéder à une arthroscopie et on espère le revoir à Indian Wells. Et pour lui c'est une catastrophe parce que non seulement il se sentait en position de gagner, bon, il faisait partie des favoris parce que
on
se souvient tous de son parcours à Wimbledon et puis surtout il peut même pas jouer, il peut même pas défendre son titre en double avec son copain Tanasi Kokkinakis. Donc ouais, c'est un désastre, c'est un coup de tonnerre, mais si on regarde un petit peu le tableau, ça peut sourire à un Français et c'est pas plus mal.
Qui ça?
Eh ben parce que Richard Gasquet ou Hugo Humbert devaient jouer Kyrgios au deuxième
attention.
Tour.
Et moi je vous le dis, c'est l'année de Richard Gasquet. après, il faut que fin de tournoi, il n'y ait plus que 2-7 gagnants, parce que sinon Richard, avec la chaleur de Melbourne, on va en parler des Français.
Pour Kyrgios aussi, hein, c'est vrai qu'il nous a fait tellement un Wimbledon incroyable, mais je pense que c'est la surface qui lui convient mieux, le gazon. Là, en 5-7 sous 40 degrés à Melbourne et l'enchaînement des matchs, je pense que ça peut être un petit peu différent, même si on le met parmi les favoris. Le gazon, c'est particulier.
On se souvient,
je ne sais pas s'il peut faire la même chose sur un grand chelem comme ça.
On se souvient à la fin de Wimbledon où il lui avait demandé s'il voulait continuer. Il a dit non, c'est trop dur d'aller jusqu'en finale d'un grand chelem, c'est tant de travail. Nick Kyrgios, ouais, c'est un crève-cœur aussi, on l'imagine, pour tous les Australiens et même pour nous parce que ça donne toujours des matchs incroyables, l'ambiance de Nick Kyrgios sur ses rencontres à Melbourne. Messieurs, du coup, Djokovic ultra favori, mais... on ne sait pas trop où il en est avec ses ischios. Rafael Nadal, c'est toujours un peu l'inconnu. Florent, qui sait qui peut être un outsider sérieux? Medvedev, Tsitsipas, c'est assez ouvert, mine de rien, parce que Djokovic, on ne sait pas comment il va gérer tout ça. Il y a forcément un autre outsider. Tu vois qui, si tu dois sortir un nom?
c'est de plus en plus ouvert maintenant.
Un non, j'ai dit.
Ouais,
non.
C'est pour ça que tu m'en donnes un. Alors, il me surprend tellement sur dur à chaque fois. Je dis non, non à chaque fois. Il ira pas, il ira pas. C'était un joueur de terre au début, et puis on voit ce qu'il fait sur dur maintenant. Je vais dire la régularité de Casper Ruud. Pourquoi pas pour aller défier Djokovic, mais bon. C'est dur.
Ils sont dans la même partie de tableau.
Dans la même partie de tableau en plus.
On va voir, hein, mais Casper Ruud, voilà, on disait c'est une surprise. Est-ce qu'il va tenir? Mais bon, il fait finale à Roland, il fait finale à l'US Open. Eric, s'il y a un nom à sortir avant qu'on passe aux Français et aux résultats qu'on a déjà.
On va se protéger. Moi, je rajouterais dans la liste Taylor Fritz. Je trouve que c'est un garçon qui est de plus en plus régulier, qui est très bon sur dur.
Jeu.
Je pense que. Ouais, qui a le jeu, qui est courageux, qui est dur au mal, même si comme ça on a l'impression que c'est le beau gosse californien qui prend ça comme un loisir, mais non, il a un vrai caractère et ils sont tous très ambitieux, hein, que ce soit les Tsitsipas, les Fritz, même Berrettini, n'oublions pas Berrettini, demi-finaliste l'an passé. Il y a du beau monde et on a hâte de voir si ces jeunes vont renverser les anciens.
Et moi j'ai hâte de voir messieurs Holger Rune aussi, il avait tellement été impressionnant de Bercy, que bon, il n'a pas pris de pause, lui, il a tellement enchaîné, mais il a une telle caisse physique. On verra ce que ça donne, Holger Rune, qui est aussi dans la partie de tableau de Novak Djokovic. Passons aux Français. Eric, on est lundi, on le répète pour ceux qui nous écoutent. La belle surprise, la belle histoire, si tu voulais en parler, c'est Constant Lestienne.
Ouais, c'est extraordinaire. Il vient de franchir le premier tour, donc il a 30 ans et 7 mois, c'était son premier match dans un majeur. Et donc c'est bingo, et on a consulté les stats. C'est jamais un Français aussi âgé n'avait ouvert son palmarès en grand chelem à 30 ans et 7 mois. Et c'est juste incroyable, parce que on est obligé de regarder, d'éplucher les chiffres avec Constant Lestienne. Et il était 230e mondial, je vais te dire ça exactement.
Ah, il joue
237e mondial le 31 janvier 2022. Tu te rends compte?
Il en
1er août 2022, top 100. Et il est très possible que dans 15 jours, il soit top 50. Donc là, chapeau. Chapeau, parce que c'est un garçon qui, on s'en souvient, avait été très marqué par l'histoire de Roland Garros, puisqu'il devait avoir la wildcard en 2016, on s'en souvient tous, et il était revenu aux oreilles de Guy Forget que la brigade anticorruption avait un petit dossier sur Constant Lestienne, qui avait eu le malheur de vider son compte de Paris Sportif en jouant sur la finale de Roland Garros de 2015, et il avait pris une suspension, et Guy Forget avait été dans l'obligation de lui retirer la wildcard, et ça l'avait totalement plombé. Et on a cru qu'il ne s'en relèverait jamais, qu'il serait un petit joueur de Challenger ou même de CNGT. Et finalement, voilà, il a sa place par les grands et chez les grands. Et peut-être même que dans très peu de temps, ce sera le nouveau numéro 1 français.
Et on va l'écouter, Constant Lestienne, que tu as pu rencontrer, Eric, après cette victoire donc vraiment importante pour lui. La première en grand chelem à plus de 30 ans.
J'ai l'impression d'être un petit enfant qui fait pour la première fois des gros tournois, donc je m'attendais pas à la fin de ma carrière à avoir cette chance là, donc je vais en profiter à fond de chaque tournoi. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre comme stade de se dire qu'on est le plus vieux à réaliser cette performance, mais bon, c'est mon parcours, c'est comme ça, et puis voilà.
On continue avec les Français. La mauvaise surprise, c'est Arthur Hinderknecht qui n'a pas existé face au qualifié japonais Watanuki, 6-3, 6-3, 6-2. Quant à Alice, a fait un bon match face à Tsitsipas, mais il a eu 4 balles de 7 au troisième set.
Dommage.
C'est dommage, Flo, pour Quentin Alice, qui il progresse de semaine en semaine, de tournoi en tournoi. Pas de chance au tirage, mais il n'est pas loin, il n'est pas si loin que ça.
Surtout qu'il restait sur un tournoi Adelaide relativement intéressant avec deux tie-break contre Djokovic. C'est un joueur puissant, avec sa force de frappe, il avait réussi à bousculer quand même Novak Djokovic. Et c'est vrai que ce troisième set, il aurait pu lui faire du bien pour la confiance. Encore, on sait qu'il manque un petit peu de repères face à des joueurs comme ça du top 10, mais oui, il progresse, il a une sacrée frappe, et c'est pas, j'ai envie de dire, avec son niveau de jeu actuel, peut-être pas de chance de tomber sur Tsitsipas au premier tour. Peut-être qu'il aurait besoin d'un ou deux tours pour se lancer et pour montrer encore plus de choses. Mais il faut qu'il continue comme ça. Et il est sur la bonne voie.
Voilà. Défaite aussi logique de Lucas Vandache face à Cameron Norrie, qui est voilà, maintenant installé dans les meilleurs joueurs du monde. Ça sera d'ailleurs Cameron Norrie pour Constant Lestienne au deuxième tour. Et Eric, belle victoire aussi de Corentin Moutet en 5-7. Mais Eric, je voulais te poser une question. On se dirige voilà, vers un tournoi encore difficile pour les Français dans le tableau masculin. On espère de belles surprises, mais finalement, c'est logique. Il n'y a pas de grand espoir à avoir, de grand parcours. Et c'est un côté très logique, finalement.
Oui, bah, on va reparler des quatre mousquetaires. C'est vrai qu'on a une pensée pour Gaël Monfils qui est en pleine reconstruction et qui va reprendre le circuit à Rotterdam, et il sera au-delà du top 200. Là, c'est un sacré challenge. Gilles Simon, ça y est, il a pris sa retraite. Joe Tsonga aussi. Et il nous reste Richard Gasquet.
Ah, voulais t'entendre sur Richard.
Moi, j'ai vibré parce que le match était en pleine nuit pour vous, mais cette finale à Auckland, on l'a savouré parce qu'il était mené 4-1 au troisième par Cameron Norrie et il a réussi à aligner 5 jeux avec un tennis offensif, avec des coups de génie côté revers, vous en doutez. Donc, il est devenu carrément le plus vieux. Le Français le plus âgé a remporté un titre ATP à 36 ans et 6 mois. Donc voilà, il est en train de collecter les records, parce que je pense que personne ne gagnera autant de matchs sur le circuit que lui. Hein. Il devient intouchable et je pense qu'il va arriver aux 600 victoires dans peu de temps. Donc c'est remarquable. Maintenant, il lui faut un long parcours, pourquoi pas ici à l'Open d'Australie. Ça va commencer par un derby contre Hugo Humbert, mais il est tout à fait capable, si jamais il fait pas trop chaud.
C'est pas trop long.
Pourquoi pas d'aller au troisième tour, puisque il devait jouer Kyrgios. Enfin, il aurait pu jouer Kyrgios au deuxième tour, donc ce sera le vainqueur de Safiulin et Kudla, donc qui était le key loser. C'est tout à fait jouable, faut dire les choses. Maintenant, attention à Hugo Humbert.
Oui, qui peut bien jouer sur le dur de Melbourne.
Bien sûr, même s'il a raté son début d'année, c'est un garçon qui est très dangereux sur surface rapide.
Voilà, pour les Français, on souhaite évidemment une très bonne surprise. J'espère qu'on nous donnera tort dans quelques jours maintenant. Messieurs, on va terminer ce cours numéro 1 avec une note positive, avec de grands espoirs. C'est forcément autour de Caroline Garcia.
Caroline Garcia! Age 28, her first major semi-final.
Forcément, il y a toujours l'objectif en tête d'aller le plus loin possible, mais d'abord, il faut commencer la préparation, prendre les repères par rapport à la surface d'ici, par rapport aux conditions.
It was really a start of a new season and probably a new step in my career last year.
Le début d'une nouvelle saison, le début d'une grande aventure, on le souhaite pour Caroline Garcia. Caroline Garcia, tête de série numéro 4, qui va rentrer dans ce tournoi. Eric, comment on parle de Caroline Garcia en Australie? Alors, il y a Iga Świątek qui est la grande favorite, mais est-ce qu'elle n'est pas juste derrière la polonaise ou parmi les grandes favorites, même pour les Australiens, même pour les suiveurs à l'international?
Bien sûr, c'est évident. C'est évident que son deuxième semestre 2022 a frappé les esprits. La victoire au Master change beaucoup de choses. Et moi, j'ai envie tout de suite de faire une comparaison peut-être un peu osée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand Amélie Mauresmo a gagné son Masters, trois mois plus tard, ou même deux mois plus tard, elle a empoché l'Open d'Australie. Donc moi, je vois un parallèle. Ce titre à First Worth va... Là,
ça,
totalement changé.
Où ça, le titre,
Forsworth. Chez J.R. Ewing, quoi, chez J.R. Ewing.
Ah
voilà.
Oui, à Forsworth.
Dans le ranch de J.R. Okay. Non, ça a changé sa vie. Moi, je la trouve totalement ouverte, libérée. Et d'ailleurs, quand elle est venue à notre rencontre, c'était samedi. Moi, je venais à peine d'atterrir. Et je l'ai rebranché sur ce qu'elle avait dit dans le quotidien L'Équipe, dans l'interview accordée à Quentin Moinet sur ses petites crises de boulimie. Et je lui dis, mais Caro, ça fait des années que je te suis, mais on peut pas imaginer que en mangeant tout ce que tu mangeais en secret, tu puisses garder cette ligne. Alors elle m'a dit cette jolie phrase. Il est quelle heure chez vous? C'est le petit-déj, non? C'est
13h30.
Elle m'a dit, c'est pas vraiment de la boulimie parce que je ne me faisais pas vomir. Voilà, bon appétit. Donc,
ça prouve quand même un changement d'hygiène de vie
et
la prise de conscience du plus haut niveau.
Et puis, ça, c'est moi, je trouve bien qu'elle ait le courage d'en parler. parce que c'est pas facile d'avouer ce genre de faille, de fêlure. Donc voilà, elle en parle, ça a fait beaucoup de bruit même à l'international, c'est ce qu'elle a dit. Je pensais pas qu'on parlerait autant de ce sujet à propos de moi, mais quelque part ça la rapproche du peuple, tu vois, ça voilà, c'est elle, un sportif au niveau assez faille, et Caro, je trouve qu'elle en joue bien, elle est absolument pas refermée, elle est totalement épanouie. Julien Beneteau est là pour jouer le sparring partner, donc elle a une bonne qualité de balle, et on espère que le premier tour va bien se dérouler.
Elle est plus avec Bertrand Perret qui l'a entraîné en fin de saison dernière. C'était juste avant le Masters. Voilà, et c'est une nouvelle saison qui commence. Elle le disait hein, dans cette petite production que vous avez pu entendre. Florent, ça va être compliqué. Ce qui peut être compliqué maintenant, c'est d'être attendu.
D'être attendu et d'être
parmi les grandes favorites, et que elle va jouer sur des grands cours.
C'est comment elle va gérer ça, mais en même temps, elle a tellement fait les 6 derniers mois de la saison passée, là, à partir de Roland-Garros, quand on l'a suivi et qu'elle gagne avec Christina, mais j'ai trouvé déjà dans l'attitude et tout, et dans ses déplacements et dans ses frappes, on en reparlait que c'était vraiment top. Il dit, mais là, elle retrouve ses frappes si elle continue comme ça, mais je vois pas comment elle peut pas gagner de tournoi. Et ça s'est vraiment passé dans la deuxième partie de saison. Mais elle était attendue aussi, du coup, elle a arraché le Masters, elle était attendue quand même au Masters. En même temps, tu joues toutes les meilleures, là, alors t'as pas trop le choix, et elle l'a fait parfaitement. Là, ça va être aussi de jouer des joueurs un petit peu moins fortes sur le papier, où elle se sent vraiment favorite. C'est plus ces tours-là qui m'inquiètent, moi, que lorsqu'elle va se retrouver face à des joueuses qu'elle a battues et des joueuses top 10. Après, il y a des joueuses qui peuvent varier un petit peu plus le jeu. Je pensais à Jabeur et cette demi-finale de l'US Open. Jabeur qui peut l'arrêter avec ses petits slides, ses amortis, la faire sortir.
Elle aime pas jouer en Jabeur.
Bon, se méfier de ça, mais il n'y a pas de raison, comme dit Eric, qu'avec cette frappe, ces déplacements, ce service, que ça passe pas. Donc, moi, je suis plutôt confiant. Après, vous dire qu'elle va gagner, mais en tout cas, on voit déjà une belle deuxième semaine. Et puis vous savez comment c'est en Grand Chelem, se sortir, se débarrasser de ce monde en première semaine. Et après, on parle pour les favoris.
Le deuxième tour va être un peu piégeux.
Avec Alizé,
soit Alizé Cornet, soit Leia Fernandez, hein, la Canadienne qui revient aussi. Et qui joue bien. Mais Caroline Garcia, voilà, fait partie des grandes favorites. Alors, et Hans Jabeur, on en parlait, on le sait, elle n'aime pas jouer Hans Jabeur, elle a un jeu qui l'embête. Eric, sinon, la grande favorite, c'est Iga Świątek, même si elle a eu un peu de mal aujourd'hui pour nous, face à l'Allemande Jule Niemeyer. Et surtout, Iga Świątek, elle a fondu en larmes complètement en début de saison, on ne sait pas où mentalement elle en est.
Oui, c'est toujours ma réserve à propos de la Polonaise. C'est une fille qui se fixe d'objectifs tellement élevés que parfois elle a du mal à tenir la pression. Et c'est vrai que la United Cup, c'est une compète qui, à mon avis, lui tenait à cœur, parce que elle défendait le maillot, le drapeau. Et cette défaite face à Pegula lui a fait très mal. Elle a fondu en larmes. Et aujourd'hui, elle n'a pas été resplendissante. Bon, elle s'en sort en 2-7, certes, mais elle a dû combler un break de retard.
Elle était menée 5-3 au deuxième,
Elle a eu une entrée en matière un peu laborieuse. Maintenant, le premier obstacle est franchi. Pour ces joueuses-là, c'est toujours important. Elle sait qu'elle a une immense pancarte dans le dos, Gaziantep.
Après la retraite d'Ashley Barty, de toute façon, c'était elle la patronne du tennis féminin. Et on le sait à quel point le tennis féminin en a besoin. Caroline Garcia, Hans Jabeur, Iga Świątek, faut pas oublier aussi Belinda Bencic qui a très bien joué juste avant le tournoi, un tournoi féminin encore très ouvert. Messieurs, pour terminer, vous le savez, avant chaque début de Grand Chelem, je vous demande le vainqueur féminin et masculin, et on ressortira la cassette à la fin du tournoi. Flo, vainqueur féminin.
Coco Gauff.
Coco Gauff, on l'a pas cité, ok, c'est noté. Eric Salio, je sais qui il va dire, Eric. Vas-y, ta gagnante.
Moi, par curiosité, je suis allé dans un tab, vous savez, c'est les trucs de Paris à Melbourne, et je voulais voir quelle était la cote d'un couplet gagnant Djokovic-Garcia, c'était 25 contre 1.
Oh bien.
Donc, voilà, vous mettez un petit billet sur ça et vous pouvez.
Donc Caroline Garcia.
Caroline et Djoko, ouais.
Ah, et Novak Djokovic.
Mais le doublé fonctionne. Hein.
Voilà, Novak 25, Djokovic, ça, vainqueur malgré les petits problèmes d'ischio. Donc voilà. Le ticket Caroline Garcia, Novak Djokovic pour Eric Salio. Le ticket Coco Gauff et Pour Florence Serra.
Et Djokovic.
Et Djokovic, ouais, voilà. Ça, c'est,
pas de surprise.
Pas de surprise. Bon, bah, c'est noté, messieurs. C'est noté. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour ce cours numéro 1 sur le début de l'Open d'Australie. On vous tiendra informé. Eric Saluo est sur place. Il vous donnera toutes les informations tout au long de ces 15 jours. Merci à Najib Boulaouine pour la production, pour ce cours numéro 1. Merci aussi à Julie Deroux qui est en régie avec nous et qui pilote ce podcast. Merci Flo, merci Eric. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les anciens numéros de cours numéro 1 sur Deezer et iTunes sur le site de RMC. N'hésitez pas à vous abonner. Passez une excellente journée sur RMC. Ciao.
RMC, cours numéro 1.